Allez, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, c'est Sporama, votre magazine interactif pour refaire l'actualité sportive sur le continent et dans le monde. Nous attendons vos appels en direct, le 001 202 205 26 33. Vous réagissez également sur notre page Facebook VOA Afrique. On va saluer nos intervenants ce soir en direct de Kinshasa via Skype. Thierry Kambundi, Top Congo FM, notre station partenaire. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Amdine Sy qui est avec nous depuis Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auteurs de la VOA Afrique.
Il est à Casablanca au Maroc. Amine Birouk, bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on va saluer également Élisée Ongpatine à Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir tous.
Allez messieurs, ravis de vous retrouver. On va d'abord parler de l'information de la soirée en football africain. C'est la présence en quart de finale d'une équipe africaine à la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans qui se déroule en France. Ce sera le Nigeria qui a arraché sa qualification dans les ultimes secondes. Un match nul, un but partout face à la Chine. Les Chinoises qui ont marqué contre leur camp en toute fin de match, le Nigeria qui affrontera donc l'Espagne en quart de finale. C'est un bon résultat. Élisée Ongpatine, jusqu'à présent, on avait malheureusement pas beaucoup d'optimisme finalement. Et hier, première victoire du Ghana, une victoire pour le Nord, 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Et cette qualification, c'est important hein, pour le foot africain, le foot féminin qui a généralement pas les mêmes moyens hein, que les consoeurs en Occident notamment. Hein.
Oui, c'est ça, vous l'avez dit, face à la France, l'Allemagne, surtout les États-Unis qui ont une avance considérable dans cette discipline au niveau des dames concernant les pays africains. Le Ghana a été le premier à se même si ce pays est déjà éliminé à tout de même sauver l'honneur, vous l'avez dit, face à la Nouvelle-Zélande. Et ce soir, le Nigeria avait besoin d'un résultat nul hein, pour se qualifier et c'est jusqu'à la 95e minute de jeu. Contre marqué par Giancindo, hein, c'est celle-là même qui a permis aux Nigérians hein, de se qualifier pour le tour suivant. L'Afrique aura en représentant au tour suivant. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il faut le dire que le Nigeria est en train de faire un travail remarquable hein, en football féminin sur le continent. Le Nigeria chez les seniors domine sans partage hein, cette discipline. C'est vrai que la Guinée équatoriale a eu la chance de remporter une fois la CAN. C'est le Nigeria qui domine, même au niveau des catégories d'âge aussi, c'est le Nigeria qui domine. Le Nigeria pourra aller jusqu'en demi-finale. C'était son propre record, j'avais dit, il y a cela quelques années.
Merci beaucoup. On va rappeler, vous parliez des Américaines, qu'elles ont été éliminées après le match nul 2-0 contre les Espagnols. Les Japonaises qui ont giflé les Paraguayennes 6-0. Et l'Allemagne, 3 matchs, 3 victoires. Cette fois, c'était face à Haïti qui a failli remonter, mais une victoire finale, 3-2. Allez, on parle à présent du Cameroun, bien évidemment, le Cameroun qui a changé de sélectionneur, le Cameroun champion d'Afrique 2017. Qu'est-ce que ça va donner cette CAN qui se déroulera ou non au Cameroun, mais surtout avec un nouvel entraîneur. On va prendre en ligne Jules Valentin Goué qui connaît bien cette équipe camerounaise à Libreville. Jules Valentin, les Camerounais qui continuent leurs expérimentations finalement cette fois-ci, ce sera avec Clarence Seedorf. Clarence Seedorf qui est arrivé la semaine dernière à Yaoundé. Dans ses bagages, son compatriote Patrick Kluivert. Encore une tentative étrangère. On en a du mal à comprendre, évidemment. Deux joueurs fantastiques, hein, Kluivert et Seedorf. Mais on a du mal à comprendre le choix de la fédération, du comité de normalisation. Éclairez-nous, Jules Valentin.
Oui, mais c'est quand on ne connaît pas le fonctionnement du football camerounais au niveau de l'organisation. Et c'est que la problématique qui se pose généralement, c'est qu'il faut trouver un entraîneur difficile à manipuler pour l'environnement local. Alors, généralement, il faut que ce soit un expatrié, puis qu'il ait de la personnalité. On s'intéresse moins à ses prouesses en tant qu'entraîneur. C'était le cas pour Bros, qui est venu, qui s'est imposé et a fait beaucoup de mécontents, mais heureusement pour lui, a gagné d'emblée la CAN. Ce qui lui a laissé quelques jours heureux au Cameroun avant qu'il n'y ait le clash. Donc je crois que là, c'est encore cette dynamique qui a fonctionné et non le palmarès des deux nouveaux entraîneurs qui sont des grands joueurs, comme on le sait.
Alors, des grands joueurs, mais je relisais notamment Clarence Seedorf, hein, qui n'a pas pu empêcher la relégation du Deportivo La Corogne, il me semble. Il y a eu des tentatives au Brésil également, ça reste un peu confus. Il a tenu quelques mois seulement au Milan AC avant d'être remplacé par Pipo Inzaghi. Amine Birouk au Maroc, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, encore une fois, les Camerounais, hein, qui sont champions en titre, qui vont chercher une solution étrangère. En plus, les deux ne parlent pas français, même si Kluivert s'est un peu occupé du volet sportif au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce choix de cette paire néerlandaise à la tête du foot camerounais?
Un choix étrange et disons un choix par défaut, parce que Clarence Seedorf, quand on voit son palmarès en tant qu'entraîneur, il est vierge de toute consécration. Vous avez cité, Nicolas, ses quelques passages à Botafogo, Milan AC, où les...
Ah, on a eu une petite interruption avec le Maroc d'Amine Birouk. On va essayer de le reprendre. On va se tourner peut-être vers Thierry Kamboundi, Top Congo FM. Thierry, on le disait, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, un duo assez invraisemblable pour diriger le champion d'Afrique 2017. Moi, ça me fait penser un petit peu au Sabri Lamouchi, hein, qui entraînait la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un peu votre sentiment?
Ben, tout à fait, surtout qu'à l'époque, Sabri Lamouchi découvrait l'Afrique à travers une sélection africaine, je veux dire, pour lancer sa jeune carrière d'entraîneur. Là encore, un choix assez étrange pour deux anciennes stars du football, Seedorf et Patrick Kluivert, qui sera son adjoint, mais deux noms qui se découvrent dans ce milieu d'entraîneurs et qui vont découvrir la dure réalité africaine et surtout camerounaise. Hein. Le doyen le rappelait tout à l'heure que c'était très, très difficile d'entraîner, de travailler normalement dans un environnement camerounais. On sait combien d'entraîneurs sont arrivés et partis et dans quelles conditions. Bref, je voudrais, à côté du tableau ou des risques présenté par mes prédécesseurs, présenter également ce challenge, la jeunesse et la découverte qui peut également amener Seedorf et Kluivert à apporter des bonnes choses. Ils ont signé un contrat de 4 ans. Ils n'auront pas beaucoup de temps car il faut tout de suite se mettre à la préparation d'une Coupe d'Afrique des Nations qu'ils doivent absolument réussir parce que l'enjeu sera double, non seulement conserver le titre, mais également gagner à domicile parce que la CAN sera organisée au Cameroun. La difficulté de la langue va se poser peut-être, même si la plupart des joueurs camerounais évoluent à l'étranger, donc maîtrisent peut-être l'anglais ou le français que parle un tout petit peu Kluivert. Donc, d'un côté, c'est un risque, c'est vrai, parce que Seedorf, vous l'avez dit, dans sa jeune carrière d'entraîneur, depuis qu'il a arrêté avec le football professionnel, n'a pas réussi grand-chose. Mais de l'autre, c'est un challenge, c'est une jeunesse, c'est des anciens grands joueurs qui peuvent également transmettre cette envie de gagner à l'équipe qu'ils seront appelés à constituer, à la sélection camerounaise qui en a tant besoin, tant elle a vécu des moments difficiles de ces derniers mois.
Ouais, bémol quand même, hein. On voit mal, par exemple, les Néerlandais n'ont pas fait confiance à Seedorf ou encore à Kluivert. Encore une fois, une particularité, un exotisme africain que les amateurs de ballon rond auront du mal à comprendre. On va marquer une nouvelle pause sur VOA Afrique. On revient tout de suite. Alors on va revenir sur le continent européen, quoique partons à Tanger au Maroc où le FC Barcelone a remporté son premier trophée hier. À Tanger, Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en battant Séville de Buzyn grâce à des buts de Gérard Piqué et du champion du monde français Ousmane Dembélé. Le Barça, champion d'Espagne et vainqueur de la Copa del Rey, réalise donc un triplé national. On va parler à Amdinsi. Amdinsi, vous êtes à Dakar. Encore un trophée pour les Barcelonais.
Oui, encore un trophée pour le FC Barça. Mais retenez le record. C'est un nouveau record pour Messi, puisque le Barça, c'est vrai, a gagné la Supercoupe en s'imposant devant Séville sur le score de 2-1. Mais c'est l'Argentin, Messi, qui a repris le brassard de capitaine hein, suite au départ de Iniesta. Il vient, tenez-vous bien, Nicolas Pinon, de soulever son 33e trophée sous les couleurs du FC et Barcelone, et c'est extraordinaire, il devance même celui qui était le plus titré, je veux le nommer Iniesta, donc Messi qui vient quand même de remporter 33 trophées, sur les 33 trophées, on peut noter quand même 4 titres de Ligue des Champions, 9 titres de championnat, 6 de la Coupe du Roi. C'est vraiment fantastique pour ce jour hors nombre. J'espère que pour cette année, il va guider encore le Barça. Le Barça, cette année, ne va pas tenter seulement le championnat ou la Coupe du Roi, mais le Barça tentera de regagner la Ligue des Champions qui est échappée ces derniers temps. En tout cas, chapeau à Messi et chapeau à Barcelone Nicolas Pinot.
Oui, le FC Barcelone, on le disait, on va peut-être poser la question finalement sur ce championnat d'Espagne qui avait été remporté par le FC Barcelone. On fait signe qu'on a retrouvé Amine Birouk avec nous depuis Casablanca. Amine, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, tout à fait, 5 sur 5.
Alors Amine, je le disais, hein, le FC Barcelone qui est allé remporter un nouveau trophée chez vous, délocaliser le match face à Séville contre Barcelone. Alors, on le disait, finalement, nouveau trophée pour les Barcelonais. La question qui se pose en Liga, finalement, est-ce que le FC Barcelone va pouvoir conserver son trophée ? Quel est votre avis avec, évidemment, un mercato un peu différent, notamment chez le rival madrilène, Zizou parti, Ronaldo aussi. On a gardé Modric avec un contrat plus important. Est-ce que Bale, Benzema et Courtois, est-ce que ça le fait selon vous pour aller chatouiller le FC Barcelone ?
En tout cas, le FC Barcelone s'est doté les moyens pour pouvoir non seulement rester au sommet en Espagne, mais également revenir au plus haut niveau européen. On rappelle que depuis 2015, le Barça n'a pas pu franchir le cap des quarts de finale de la Champions League. C'est un peu le challenge, d'autant plus que le rival d'en face a gagné 3 fois consécutivement la Coupe aux grandes oreilles. Pour ce qui est de cette mise en jambe qui a eu lieu à Tanger de manière délocalisée, je pense que le FC Barcelone a utilisé une équipe hybride, dans la mesure où une partie de l'effectif disputait son premier match officiel de la saison après une période méritée suite à la Coupe du Monde. Et visiblement, le joueur le plus en jambe, celui qui avait quelques matchs lors de la tournée aux États-Unis, Ousmane Dembélé a été le plus efficace du trident offensif de cette équipe de Barcelone, qui a eu du mal à carburer face à Séville. Mais quoi qu'il en soit, la saison est suffisamment longue pour que les doublures du Barça, parce que c'est ce qui manquait au Barça, la profondeur de banc-touche, soit compatible avec l'ADN de jeu de l'équipe, l'arrivée de Malcolm, d'Arthur et surtout d'Arturo Vidal qui va apporter beaucoup d'impact au milieu de terrain, beaucoup de muscles vont permettre à cette équipe de pallier à certaines des déficiences vues notamment lors de la saison européenne. Souvenez-vous, lors du match face à la Roma où c'est au physique que les Giallo Rossi avaient réussi à sortir le Barça. Aujourd'hui, le Barça est capable de gérer 2 ou 3 systèmes de jeu, de pouvoir jouer en contre, de jouer l'attaque placée. Surtout aujourd'hui, ils mettent du muscle au milieu de terrain et sont capables de jouer sur ce registre qui leur a fait défaut pendant très longtemps. Le Real Madrid, de son côté, a eu un recrutement très conservateur. Il a perdu Zidane, il a perdu Cristiano Ronaldo. C'était un divorce assez douloureux pour les supporters du Real Madrid. Et aujourd'hui, ils ont eu du mal à garder Luka Modric, qui avait des envies d'ailleurs. Pourront-ils se rattraper vers la fin du mercato, sachant que l'objet de leur convoitise pourrait être Eden Hazard ? Ou se contenteront-ils de ces champions d'Europe, peut-être répus, après 4 Ligues des Champions en 5 années ? Voilà la réponse que nous aurons d'ici la fin du mercato espagnol. Il sera le dernier à fermer les portes en Europe, ce sera vers le 31 août prochain.
Merci beaucoup Amine Birouk, on va marquer une pause sur VOA Afrique, on revient tout de suite. Allez, on part en Angleterre également, la première ligue qui a repris ses droits avec une belle victoire finalement du champion en titre Manchester City qui a battu Arsenal 2-0. Les Citizens qui ont permis finalement de se rassurer. Et surtout, avec vous, Élisée Ongpatine, on a Liverpool qui a balayé West Ham 4-0. C'est West Ham, c'est pas une des grosses écuries du championnat anglais, mais quand même, on va saluer le retour du pharaon égyptien après évidemment une Coupe du Monde en danse. Si Mohamed Salah, déjà buteur sur ce premier match, et Sadio Mané qui inscrit un doublé. On va aussi parler de l'arrivée de l'autre Africain à Anfield Road, c'est Naby Keita, acheté 50 millions d'euros à Leipzig. Pour le moment, pour la colonie africaine de Liverpool, tout va bien pour cette reprise.
Oui, tout va bien, surtout avec ce score de 4-0, Mohamed Salah qui s'est retrouvé, surtout et Sadio Mané qui a inscrit un doublé, vous l'avez dit, c'est pratiquement les Africains de cette équipe qui ont malmené complètement West Ham. Maintenant, Liverpool est plus que jamais favori pour le titre final, C'est vrai que Manchester City est là et qui a démontré et que voilà, elle est là pour garder son bien avec aussi cette recrue, notamment l'Algérien Riyad Mahrez qui s'est bien illustré hein, lors de son premier match. Donc, c'est dit qu'on aura une grande bataille comme d'habitude hein, en première ligue, Liverpool avec sa colonie africaine, Nabil Keïta, l'homme, le maître à jouer hein, de Red Bull de l'autre côté hein, de l'Allemagne. Bien qui a été transféré du côté de Liverpool pour apporter cette technique, hein, cette création au milieu de terrain. Et déjà à son premier match, il a prouvé. Bien sûr, c'est Salah et Sadio Mané qui en profitent et qui ont marqué. Liverpool est à surveiller de très, très, il faut le dire. Et c'est comme qui court derrière un titre de champion qui a plus de cela à 30 ans. Donc, c'est-à-dire que ça s'annonce très, très ouvert pour ce club pour aller chercher un titre.
Merci beaucoup. Alors Jules Valentin Gouet, l'autre attrait de cette finalement première journée, hein, c'était évidemment l'opposition de style avec Unai Emery, le nouvel entraîneur hein, d'Arsenal, et finalement battu hein, face à Pep Guardiola. Comment vous avez analysé les premiers pas du nouvel entraîneur des Gunners?
Mais c'est clair, il est arrivé dans une équipe qu'il faut modifier entièrement et à laquelle il veut donner un autre esprit, et une équipe qui a joué et pratiquement avec la philosophie Wenger pendant plus d'une décennie. Donc, finalement, ses débuts ne seront pas faciles. Le public d'Arsenal est habitué à voir du beau jeu et à voir également des victoires suivre. Donc, je crois que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a intérêt à voir
Oui, Thierry Kamboundi sur justement Arsenal. Faut-il nécessairement hein, une paire d'attaquants, Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang? C'est vrai que le Gabonais a été un peu orphelin hein, sans Lacazette. Pas forcément une façon idéale pour lui de jouer, mais est-ce que selon vous c'est la paire qui devrait s'imposer à la tête des Gunners?
C'est possible pour que ça marche. J'ai suivi quelques matchs d'Arsenal en fin de saison dernière. La paire Aubameyang, Lacazette avait plutôt bien marché. Et en plus.
Alors malheureusement la ligne est un peu difficile via Skype, on va essayer de se reconnecter avec Thierry Kamboundi, mais on va continuer hein, ce tour d'horizon des championnats européens avec le Paris Saint-Germain. On part en France, le Paris Saint-Germain vainqueur du trophée des champions, 4-0 face à Monaco et vainqueur face à Caen, une rentrée facile lors de cette première journée de la Ligue 1 avec des buteurs bien évidemment lors de ce match et notamment Neymar qui est rentré au bercail et Neymar qui a pu finalement inscrire son premier but lors de ce nouveau championnat. On va voir avec vous Amédine, le Paris Saint-Germain, c'est toujours la même équation finalement, si la concurrence est trop faible en Ligue 1, pas facile de se préparer pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est un peu votre sentiment? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille vont pouvoir muscler leur jeu pour vraiment titiller le Paris Saint-Germain sur toute une saison? Amédine, est-ce que vous nous entendez? Amédine, si. Oui, on vous entend. Je vous disais, est-ce que finalement, vous avez le sentiment que Paris aura de la concurrence en Ligue 1 cette année?
Oui. Si ça continue comme ça, parce que si on regarde la première semaine de la Ligue 1, l'OM a assuré, Lyon a assuré, Monaco a assuré, mais ce n'est qu'une première journée. Maintenant, on va voir. Et si on regarde quand même le match de ses concurrents, les concurrents du Paris Saint-Germain ont mieux assuré quand même que le PSG, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le score de 3-0, mais c'est par la faute des canets hier, parce que si on regarde les buts, c'était des cadeaux, on peut dire que hier, pour le match du PSG, c'était Noël avant Noël, parce qu'il y avait beaucoup de cadeaux quand même de la part de ces joueurs canets. Mais si on regarde aussi les joueurs qui ont débuté ce match, le Paris Saint-Germain qui a démarré sans ses champions du monde, avec Mbappé qui n'était pas dans le groupe, donc cela veut dire ce que cela veut dire. Mais les jeunes poussent, la classe biberon du Paris Saint-Germain a assuré, parce que hier sur les joueurs qui ont joué, on a constaté qu'il y a 6 joueurs qui ont été formés par le Paris Saint-Germain. C'est une équipe du Paris Saint-Germain, Nuluk, qui s'est imposée. Mais on va voir le championnat, en tout cas. si le Paris Saint-Germain peut réaliser de bons résultats en Ligue des Champions, il faut que ses rivaux puissent quand même élever leur niveau de jeu pour créer des problèmes au Paris Saint-Germain. Et cela ne sera que bénéfique pour l'équipe de la capitale de la France, Nicolas Pinault.
Merci beaucoup, Amélie Nsé. Et puis on rappelle, l'Italie n'a pas encore primé les deux premiers buts en match amical de Cristiano Ronaldo. Ça fera plaisir, bien évidemment, à tous les supporters de la Juventus Turin. On revient au foot africain pour vous dire que le Ghana est le dernier pays qualifié pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Le Ghana est devenu le 8e et dernier pays qualifié pour cette phase finale qui aura lieu l'année prochaine au Niger. Les Black Satellites sont venus chercher le nul à Cotonou, un but partout, après leur victoire 3 à domicile contre les Écureuils du Bénin. On va écouter la déception de Valère Ouadinou, le coach des Écureuils Junior.
Je ne vais pas dire que je ne suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, mais pas totalement, parce que ce n'est pas ce que je voulais. Donc, satisfait, ouais, quelque part, je suis satisfait. D'autre part, je ne suis pas trop satisfait. On peut attribuer ça aussi à un manque de compétition. Hein. C'est vrai, on a joué quelques matchs amicaux avec l'équipe. Mais dites-vous aussi que les joueurs ne sont pas en jeu, ils ne sont pas en championnat. Donc, ça compte beaucoup.
Le sélectionneur du Bénin, Valère Aoundinou. On va poser la question évidemment à Elise Ongpatine. Malheureusement, hein, la défaite à domicile pour les Écureuils juniors. Hein.
Oh oui, c'était une grande déception ici, Nicolas, il faut le dire, puisque le Bénin s'est bien préparé hein, pour cette qualification, une troisième participation à une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans de son histoire, mais la faute à cette grande équipe ghanéenne qui était hier au stade René Clément d'Akaba. Et bien, un match où les Béninois ont bien joué en première partie, mais c'était sans compter hein, sur l'absence de l'attaque de cet attaquant-là qui devait être présent, mais pour faute administrative, donc le joueur n'a pas pu être aligné à Kinola, qui avait permis bien sûr aux Béninois de se qualifier face à la Gambie. Et bien, il n'a pas pu jouer le match aller ni le match retour. Valère Ouadinou l'a dit, le Bénin n'a pas de compétition pour cette crise, la crise qui continue toujours à dominer le football béninois. Maintenant, les dirigeants vont comprendre qu'il faudra nécessairement une compétition chaque saison pour pouvoir permettre à ces joueurs d'être compétitifs et aller chercher une qualification pour ce genre de compétition africaine.
Merci beaucoup. On rappelle la liste des pays qualifiés. L'Afrique du Sud, le Burkina Faso, Burundi, Ghana, Mali, Nigeria, Sénégal et le Niger, le pays organisateur. Et puis on va également vous rappeler que cette compétition aura lieu entre le 24 février et le 10 mars 2019. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du Monde de la catégorie. Un résultat de cyclisme pour vous dire que le Tour du Rwanda a été remporté par Samuel Mugisha, le coureur rwandais, devant son compatriote Jean-Claude Ouézé et l'Éthiopien Moulu Haile Michael. C'est la cinquième fois depuis 2014 que le Rwanda s'adjuge le maillot jaune sur ce tour du Rwanda. La victoire d'étape hier de l'Algérien Azzedine Lagab. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. On va remercier Thierry Kambundi, Top Congo FM, pour la connexion Skype. On va remercier également à Dakar Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Depuis Casablanca, il était avec nous, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, à la semaine prochaine.
Jules Valentin Ngoué, au revoir depuis Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Et enfin, on va saluer Élisée Ongpatine Aboïkon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, à lundi prochain.
La mise en onde assurée par Michel Joseph, Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h PU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.